Parlons-nous la même langue ? C'est la question que je me pose parfois en parlant du don des langues et du don de prophétie avec un de mes meilleurs amis qui est charismatique. Alors, de toutes les questions suscitées par l'émergence du mouvement charismatique, hein, le mouvement charismatique est assez jeune dans la mesure où son émergence remonte au début du XXe siècle, hein, finalement, aux États-Unis. Depuis cette émergence, la question des langues et de la prophétie est sans doute, peut-être, l'une des plus difficiles et l'une des plus débattues entre certains chrétiens, charismatiques d'un côté et non charismatiques de l'autre. Je dis certains parce que le mouvement charismatique est aujourd'hui très diversifié et que cette diversité rend, à mon sens, hein, toute généralisation complètement déconnectée de la réalité et toute caricature vraiment irrespectueuse. Par exemple, mes amis charismatiques sont naïfs ou en tant que non charismatique, je suis parfois taxé d'intellectuel. Je pense vraiment que ces caricatures, d'un côté comme de l'autre, sont assez irrespectueuses. De la même manière qu'il y a différentes tendances, hein, charismatiques dans le monde chrétien, il y a aussi différentes tendances non charismatiques. Et même beaucoup de chrétiens qui sont quelque part entre les deux positions. Et c'est peut-être votre cas cet après-midi. Alors en abordant ces questions qui ne sont pas essentielles, mais à mon avis secondaires dans la doctrine chrétienne, mon but n'est vraiment pas d'entretenir une polémique. Pas du tout. Je tiens avant toute chose à faire preuve de sensibilité et à ne surtout pas offenser mes frères et sœurs en Christ qui n'ont pas les mêmes convictions que moi. Et si vous avez des convictions différentes des miennes, ce soir, mon but n'est pas du tout de vous offenser ou d'heurter votre sensibilité. Je tiens simplement à essayer de sonder les Écritures, à essayer de comprendre ce que dit la Bible, tant bien que mal, et à soumettre nos convictions, nos traditions et même nos expériences, à soumettre tout cela à l'autorité suprême et absolue de la parole de la Bible, la lumière à nos pieds, pour ne pas nous égarer et pour essayer simplement de recevoir ce que Dieu, dans sa grâce, veut nous donner. Donc je m'excuse par avance si je manque de sensibilité. Je vais prier et puis on va y aller. Prions. Notre Dieu, notre Père, ta parole est une lumière à nos pieds. C'est la lumière qui éclaire nos vies. Et nous prions que ton Saint-Esprit éclaire notre intelligence pour comprendre cette parole et qu'il puisse, ton esprit illumine aussi nos cœurs et nous donne les forces de mettre en pratique ce que nous allons apprendre, s'il te plaît. Tout cela nous le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors avant de poursuivre, je précise que dans les plans qui vous ont été distribués, dans les bulletins, pardon, il y a le plan de ce que je vais dire, deux petits points d'introduction, deux points principaux, et puis trois principes d'application. Nous commençons par les deux points d'introduction. J'aimerais essayer de définir les deux dons dont il est question dans ce chapitre 14. D'accord ? Premièrement, qu'est-ce que le parler en langue ? Et deuxièmement, qu'est-ce que la prophétie ? Deux points introductifs. Alors, qu'est-ce que le parler en langue ? S'agit-il de glossolalie ? Si vous jouez au Scrabble, je vous conseille de caser ce mot. Hein. Un mot compte triple, vous faites un carton. Hein. La glossolalie, c'est-à-dire la production de son linguistique ne correspondant à aucun langage humain. S'agit-il de glossolalie ou de xénoglossie ? Là aussi, au Scrabble, vous faites un carton. Hein. C'est-à-dire la capacité miraculeuse de prononcer des paroles dans une langue non apprise. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails de cette question, mais plusieurs éléments semblent à mes yeux, je me trompe peut-être, mais il me semble que beaucoup d'éléments militent en faveur de la xénoglossie, la capacité miraculeuse, d'accord, de prononcer des paroles dans une langue non apprise. Deux éléments me font penser cela, l'emploi du mot « langue » en lui-même, par exemple, et le phénomène similaire consécutif à la Pentecôte, en acte 2. Le jour où les disciples ont parlé des langues, vous vous rappelez, en l'occurrence, les langues des nations non-juives. Toujours est-il que ce don de xénoglossie, me semble-t-il, était apparemment très pratiqué par certains chrétiens dans l'église de Corinthe, des chrétiens qui faisaient de ce don un critère un petit peu une preuve irréfutable, un critère infaillible de spiritualité authentique. Vous vous rappelez certains chrétiens qui parlaient en langue, disaient « je parle en langue, par conséquent, je suis vraiment spirituel ». Mais l'apôtre Paul va corriger cette mauvaise compréhension de spiritualité chrétienne en leur rappelant deux choses que nous avons vues précédemment. Vous vous rappelez au chapitre 13, sans amour, les dons sont morts. Sans amour, les dons sont complètement morts. Les dons en eux-mêmes n'ont aucune valeur spirituelle. Si l'amour ne caractérise pas la façon dont ils sont exercés. Le but des dons, qui contrairement à l'amour, cesseront un jour, n'est pas de me grandir aux yeux des autres, mais de faire grandir les autres. Qu'il ne s'agit pas d'aimer utiliser mes dons, mais d'utiliser mes dons pour aimer. Sans amour, les dons sont morts. Premier élément de réponse que Paul apporte pour corriger la mauvaise compréhension des Corinthiens. Et le deuxième élément de réponse, c'est celui-ci. Il y a un don auquel les Corinthiens doivent aspirer en priorité. Et ce don, eh bien, c'est celui qui fait l'objet notamment du chapitre 14, c'est la prophétie. Donc, deuxième question introductive, qu'est-ce que la prophétie? Alors, c'est une question extraordinairement complexe, je dois vous avouer. C'est peut-être le chapitre qui m'a donné le plus de fil à retordre depuis que j'ai été formé en théologie, d'accord, depuis 5 ou 6 ans. C'est une question extraordinairement complexe, peut-être pas pour vous, mais pour moi en tout cas, à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre, sans faire une double distinction. Et je suis vraiment conscient que tous les théologiens réformés ne font pas cette distinction, d'accord? Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre la prophétie sans faire cette double distinction. La première distinction, que je ne voudrais surtout pas simplifier à l'excès, c'est celle entre la prophétie canonique et inspirée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et au sein de ce Nouveau Testament, je fais une deuxième distinction, encore une fois que tout le monde ne fait pas, et qui n'engage que moi. Au sein de ce Nouveau Testament, je fais une distinction entre la prophétie canonique et inspirée des apôtres, qui sont en quelque sorte pour moi les successeurs des prophètes, et là je me base sur Éphésiens 2.20 par exemple, ou Éphésiens 3.5, pour dire que les apôtres sont en quelque sorte les prophètes du Nouveau Testament. Donc distinction au sein du Nouveau Testament entre cette prophétie canonique et inspirée des apôtres, successeurs des prophètes, et la prophétie en tant que don accordé par la grâce de Dieu à certains chrétiens dans l'Église primitive, et devant être évalué à la lumière de la Bible. Et je soumets vraiment cette compréhension à votre discernement, d'accord, Mais il me semble qu'il s'agit de ce don de prophétie dont il est question précisément, en 1 Corinthiens chapitre 14. Si vous avez des questions là-dessus, rendez-vous sur le canapé, après le culte, pour pouvoir en discuter autour d'un bon verre de coca et d'un bon paquet de chips, d'accord? En tout cas, ce qui est beaucoup plus clair dans ce chapitre 14, c'est que l'exercice des dons des langues et de prophétie doit être gouverné par deux principes. Et c'est le cœur, l'essence, la quintessence de mon message, ce que vous pourriez résumer ainsi. Les dons de langue et de prophétie doivent être gouvernés par deux principes cultes. Deux principes fondamentaux, qui sont l'intelligibilité et l'ordre. Et c'est l'objet des deux points que j'aimerais développer maintenant. Premièrement, des versets 1 à 25, j'aimerais voir avec vous, aspirer à la prophétie, car elle édifie, et des versets 26 à 40, aspirer à l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Donc premièrement, et le plan de ce message est dans vos bulletins, premièrement, des versets 1 à 25, aspirer à la prophétie, car elle édifie. Est-ce que vous avez remarqué dans ces versets comment Paul établit un contraste saisissant entre d'un côté la prophétie et de l'autre les langues? Est-ce que vous avez remarqué ce contraste? Et comment il révèle la supériorité de la prophétie? Pourquoi la prophétie est-elle supérieure aux langues selon Paul dans ces versets? Et bien, selon lui, parce que la prophétie, contrairement aux langues non interprétées, est intelligible, compréhensible. Elle permet au don de prophétie, de remplir son don. Et vous vous rappelez le don, le but de tous les dons, d'édifier le corps de Christ, qui est l'Église, d'encourager les croyants dans leur foi en Jésus. Un exemple va peut-être vous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si je vous dis, écoutez bien, Watashi wa Keiko, Sushi ga di deska, Yotenki desne, Arigato gozaimasu. Est-ce que vous avez été édifié? Franchement. Jonathan, t'as été édifié?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Très bien. Ma question est, pourquoi Jonah, et je pense la plupart d'entre vous, dont moi-même, pourquoi n'avons-nous pas été édifiés par cette parole? Tout simplement. Parce que cette parole que j'ai prononcée n'est tout simplement pas intelligible. Elle n'est pas compréhensible, à moins de connaître le japonais. Eh oui. Vous voyez, si nous prononçons des paroles inintelligibles, incompréhensibles, comment allons-nous être édifiés? Comment? Ce n'est pas possible. L'édification des croyants que vous êtes, que nous sommes, l'édification du croyant que je suis dépend de manière fondamentale, et quand je dis fondamentale, c'est biblique, l'édification des croyants que nous sommes dépend de l'intelligibilité. Ce qui explique l'insistance de Paul sur la compréhension, l'interprétation et l'intelligence dans ces versets. Regardez le verset 2 par exemple. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Regardez le verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Et puis regardez l'insistance sur l'interprétation au verset 5 par exemple. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive édification. Et puis le verset 13, insistance sur l'interprétation. Hein. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir quoi? Interpréter. Et puis l'insistance sur l'intelligence. Regardez le verset 19. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. C'est un verset très intéressant. Très intéressant. C'est un peu comme si Paul disait, les Corinthiens, les amis, les petits loups, vous pensez qu'une parole en langue a autant, si ce n'est plus de valeur, qu'une parole avec mon intelligence. D'accord? Vous pensez qu'une parole en langue a autant, si ce n'est plus de valeur, qu'une parole avec mon intelligence, qu'une parole intelligible. Mais moi je vous dis, c'est moi qui dis, hein, c'est Paul, mais moi je vous dis, c'est ce qu'il dit au verset 19, regardez, hein, de 5 paroles intelligibles sont préférables à 10 000 paroles en langue. Alors merci Meg qui m'a aidé à construire cette illustration, mais le rapport, je fais appel à Christophe et au matelas, hein, le rapport entre les deux étant de 1 pour 2000, vous me suivez, hein, le rapport entre les deux étant de 1 pour 2000, une parole intelligible, une parole compréhensible, est préférable à combien de paroles en langue? À 2000 paroles en langue. Autrement dit, 5 paroles intelligibles sont 2000 fois plus intéressantes que 10 000 paroles en langue. D'accord? C'est clair. Merci, mec. La valeur des paroles intelligibles, autrement dit, est 2000 fois supérieure à celle des paroles en langue. Là encore, un exemple va peut-être nous aider à mieux comprendre. C'est un peu comme si j'avais 1 euro. Merci, Gilles, tu m'as prêté 1 euro. J'ai 1 euro, d'accord, dans ma main. C'est un peu comme si j'avais 1 euro et que vous aviez 2000 euros, là, en poche. On échange? Est-ce que vous seriez prêt à échanger vos 2000 euros contre mon euro? J'attends, d'accord, l'offre tient, ok, je laisse 7 euros sur la table. Est-ce que vous seriez prêt à échanger vos 2000 euros contre mon euro? Bien sûr que non, j'espère que non. Enfin, si vous voulez échanger vos 2000 euros contre mon euro, C'est pas de problème, hein. Ça ne regarde que vous, hein. Mais 2000 euros ont beaucoup plus de valeur, n'est-ce pas, qu'un euro. Et bien, de la même manière, est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de dire? Une parole intelligible, une seule, a tellement, tellement plus de valeur qu'une parole en langue non interprétée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la parole est intelligible, compréhensible et qu'elle édifie. Mais l'apôtre Paul va beaucoup plus loin, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, en avertissant les Corinthiens, parce qu'il va les avertir non seulement de l'inutilité, mais aussi de l'effet contre-productif des langues, sans interprétation dans le cadre du culte. C'est ce qu'il semble dire des versets 20 à 25, des versets vraiment pas faciles à comprendre. Dans ces versets, vous avez peut-être une note dans vos Bibles, hein. Paul cite le prophète Ésaïe, chapitre 28, les versets 11 à 12, pour indiquer que les langues, verset 22, hein, servent de signe, non pas pour les croyants, mais pour qui? Pour les non-croyants. C'est clair ça, les langues servent de signe, non pas pour les croyants, mais pour les... Et qu'est-ce qui conclut au verset 23? Regardez le verset 23 encore avec moi. Si donc l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue, et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Dans ce verset 23, Paul semble conclure, mais de manière assez surprenante et contradictoire, que les langues sont en fait inutiles et contre-productives. Hein. Les langues sont faites pour les non-croyants, mais il semble dire que si on parle en langue en présence de non-croyants, ben, les non-croyants vont penser qu'on va devenir fous. C'est contradictoire. Pourquoi ne pas parler en langue en présence des non-croyants? Si les langues sont précisément un signe pour les non-croyants, vous comprenez? Il y a une apparente contradiction, là. Pas facile. Comment résoudre cette difficulté? Eh bien, en venant au GBU, notamment. Parce que GBU, on est convaincu que tout texte hors de son contexte est un prétexte. Merci aux étudiants. Tout texte hors de son contexte est un prétexte. Je pense que la réponse à cette difficulté se trouve dans le contexte d'Ésaïe, chapitre 28. Dans ce chapitre, est-ce que vous vous rappelez, Dieu va avertir le peuple rebelle d'Israël que les prochaines paroles qu'il va entendre seront celles d'étrangers qu'ils ne vont pas comprendre. Est-ce que vous vous rappelez l'identité de ces étrangers? Le langage de quel peuple? Le langage des Assyriens qui vont envahir le pays. Ce sera une parole de jugement. Et vous voyez, c'est à cette période, hein, tragique de l'histoire d'Israël que Paul fait allusion pour établir un principe général. Quand Dieu parle à des hommes dans une langue qu'ils ne comprennent pas, c'est un signe de son jugement. C'est un signe de son jugement. Par conséquent, si on devait paraphraser, voilà ce que Paul pourrait dire, hein, Corinthiens, ne parlez surtout pas en langue, hein, surtout pas, sans interpréter ce que vous dites. Pourquoi? Parce que les langues incompréhensibles, inintelligibles, non interprétées et donc non comprises par les non-croyants sont un signe de jugement. De jugement de Dieu qui va empêcher les non-croyants non seulement de comprendre ce qui est dit, mais en plus d'être sauvés. L'enjeu est solennel. Paul dit, aspirez plutôt à la prophétie, car c'est une parole intelligible, compréhensible, qui peut non seulement édifier les croyants, les encourager dans leur foi, mais aussi, regardez le verset 24, dévoiler les secrets du cœur des non-croyants, les convaincre de la présence de Dieu parmi son peuple et les amener à l'adorer. Aspirez à la prophétie, car elle édifie. Premier principe culte qui doit diriger, gouverner notre vie d'église. Ça va pour l'instant? Tout va bien? On continue. Deuxièmement, aspirez à l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Deuxième principe qui doit gouverner, diriger la vie de l'église, notamment dans le cadre du culte. Des versets 26 à 40. Dans ces versets, après avoir insisté sur la nécessité de l'intelligibilité, hein, pour contribuer à l'édification de l'Église, Paul va poser la question suivante. Vous avez vu au verset 26 la question qu'il pose ? Regardez. Que faire donc, frère ? Autrement dit, sachant que l'intelligibilité est vraiment nécessaire, indispensable à l'édification, comment les chrétiens de Corinthe doivent-ils concrètement mettre en pratique ce principe pendant le culte, la réunion publique ? D'accord ? Lorsque vous vous assemblez, c'est encore au verset 26, hein, regardez. Hein. Que faire donc lorsque vous assemblez ? Eh bien, je crois que la réponse à cette question se trouve dans les versets 26 à 33. Quelle que soit la nature de l'activité pratiquée, un cantique par exemple, verset 26, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, tout doit se faire dans l'ordre et dans la paix. Regardez le verset 33, hein. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Regardez la conclusion du chapitre, le verset 40. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'ordre. Le culte public, ce que nous faisons le dimanche soir, de 17h à 18h30 par exemple, dans notre église, doit refléter l'ordre et la paix qui caractérisent Dieu que nous adorons. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. D'où ces trois restrictions très importantes des versets 27 à 35. Et regardez les versets 27 à 28. Dans le cadre de ce principe d'ordre, le parler en langue doit être limité et interprété. Regardez les versets 27 et 28. Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, qu'il en ait un aussi qui interprète. Deuxième restriction, les versets 29, vous avez vu ? De la même manière, les prophéties doivent être limitées et soumises au jugement des autres. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Vous voyez l'ordre qui est instauré ? Et puis regardez le verset 34 et 35, la bombe atomique. Quant aux femmes, elles doivent se taire. Je n'ai pas encore fini, non, je dois rester. Bon, je reste un peu alors. Hein. C'est une véritable bombe atomique, écoutez, dans la Bible, il y en a quelques-unes qui sont lâchées comme ça. Une bombe atomique que je vais essayer de désamorcer, tant bien que mal. Ces versets sont extrêmement difficiles à interpréter et à comprendre, mes amis. Je me suis inspiré du commentaire de Don Carson sur 1 Corinthiens 12 à 14, qui s'appelle « Showing the Spirit » en anglais. Il me semble que ce livre n'a pas été traduit en français. Si vous voulez traduire un livre dans votre vie, je vous conseille de traduire celui-là. Don Carson écrit que les solutions qui ont été avancées pour comprendre ce passage sont comme les démons, dans certains cas de possession démoniaque, légion. C'est-à-dire nombreuses. Il y a beaucoup d'interprétations différentes. Alors, quelle est l'interprétation la plus sûre de ce passage très difficile à comprendre? Tout texte hors de son contexte étant un prétexte. Merci. Comment désamorcer cette bombe atomique? Eh bien, là encore, nous allons appeler le contexte à la rescousse. Le premier élément de réponse, c'est du calme. Du calme. Du calme. Les femmes ont leur rôle à jouer dans l'Église, d'accord ? Et leur mot à dire, ce même apôtre Paul évoque la possibilité qu'elle prie et prophétise en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Vous voyez comment la restriction de ces versets n'est donc pas absolue. C'est très important. Cette restriction n'est pas absolue. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse. L'étau se resserre inévitablement. Il me semble que dans le contexte de ce passage, et notamment dans le contexte précis des versets 26 à 40, qui forment à mon sens une unité cohérente, dans ce contexte où Paul appelle les croyants à juger les prophéties, regardez le verset 29, il s'agit de juger les prophéties. Dans ce contexte précis, il me semble que la parole à laquelle les femmes ne sont pas appelées à participer est précisément le jugement des prophéties. Pour quelle raison ? Eh bien, en raison de la loi. Regardez le verset 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Donc cette restriction, je le répète, n'est pas du tout absolue, à mon avis, pas du tout. Mais à remettre dans le contexte de ce passage, et plus précisément dans le contexte de la loi. La question qui se pose, c'est à quelle loi Paul fait référence dans ce verset ? Il ne le précise pas. Personnellement, je peux me tromper, mais je pense que cette loi fait référence à l'ordre créationnel que Dieu a établi en Genèse, chapitre 2, versets 20 à 24. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un passage sur lequel Paul fonde son argument dans les deux autres passages où il parle du rôle des femmes dans l'Église. À savoir 1 Corinthiens, chapitre 11, et 1 Timothée 2. Mais je reconnais que c'est vraiment, vraiment, vraiment un passage très, très difficile. Cet ordre créationnel n'implique pas du tout une notion de supériorité et d'infériorité, pas du tout, mais de différence fonctionnelle, de différence de rôle, de complémentarité au sein d'une égalité absolue en humanité. Donc, une complémentarité, une différence de rôle au sein d'une égalité absolue en humanité. En créant l'homme en premier et en créant la femme pour l'homme, Dieu, selon la Bible, a établi un ordre, un modèle. C'est ce que je crois comprendre, en tout cas, de Genèse 2. La femme doit se soumettre à l'autorité de l'homme, de son mari, et cette soumission consiste notamment à ne pas exercer de fonction d'autorité comme l'enseignement et le jugement des prophéties dans le cadre du culte. Voilà, si vous voulez me lancer des tomates, si vous voulez me lapider, c'est le moment. Sinon, je vais conclure. Donc nous avons vu deux points introductifs. Qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce que le parler en langue, dans un premier temps, pardon? Qu'est-ce que la prophétie? Deux principes fondamentaux qui doivent diriger, gouverner le déroulement de l'Église dans le cadre du culte. Premièrement, aspirer à la prophétie, car elle édifie, des versets 1 à 25. Deuxièmement, aspirer à l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre, des versets 26 à 40. J'aimerais terminer avec trois applications pour nous aujourd'hui. Comment appliquer ce texte à notre vie d'Église aujourd'hui? Alors, je suis conscient que je suis en train de marcher sur des œufs depuis 26 minutes, bientôt 27. Ou pour utiliser une autre image, que je suis en train de marcher sur un chemin très étroit duquel il est très difficile de s'écarter sans tomber dans la polémique. Alors j'aimerais par conséquent, pour finir, baser mes applications sur trois principes bibliques qui, je l'espère, sont indiscutables pour nous tous. Le premier principe, c'est la recherche de l'amour. Regardez le premier verset du chapitre, verset 1, chapitre 14. Par quoi, par quelle exhortation l'apôtre Paul commence ce chapitre? Recherchez l'amour. Au cœur de la pratique des dons spirituels, il y a l'amour. Il y a le chapitre au cœur d'1 Corinthiens 12 à 14, il y a 1 Corinthiens 13. L'amour, 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 sans lequel les dons sont morts et ne servent strictement à rien. Deuxième principe, il me semble directement tiré de ce texte, c'est la nécessité de l'intelligibilité. Ça aussi au Scrabble, c'est pas mal. L'église locale doit être le lieu par excellence de l'intelligibilité, dans la mesure où son édification en dépend. Vous comprenez, notre édification, notre mon édification dépend de l'intelligibilité, de ce que j'entends le dimanche. Les croyants que nous sommes ont besoin de comprendre ce qu'ils entendent pour grandir dans leur foi en Christ. C'est en tout cas mon cas. L'édification exige une parole intelligible, compréhensible, que les langues en elles-mêmes ne peuvent pas produire si elles ne sont pas interprétées. Alors avons-nous conscience de la valeur de l'intelligibilité dans le cadre de nos réunions publiques le dimanche après-midi? Est-ce que nous avons conscience que cette intelligibilité peut non seulement contribuer à l'édification des croyants que nous sommes, mais aussi à une certaine prise de conscience dans le cœur des non-croyants? Quelle impression, je me demande, quelle impression nos amis non-croyants ont-ils en assistant à nos réunions? Si vous êtes non-croyant aujourd'hui, par exemple, quelles sont vos impressions alors que vous êtes en train d'assister à notre réunion, les paroles que nous prononçons, que je prononce par exemple, ou que nous avons prononcées en priant, en chantant, ces paroles sont-elles suffisamment intelligibles pour comprendre l'Évangile, pour faciliter cette compréhension, pour faciliter une certaine prise de conscience de la présence de Dieu parmi nous? Ce sont des questions sincères que je pose. Première application, recherche de l'amour. Deuxième application, nécessité de l'intelligibilité. Troisième et dernière application, l'autorité et la suffisance de la révélation biblique. Est-ce que vous avez remarqué que si la valeur de la parole prophétique est relative par rapport aux langues dans ce chapitre, 1 Corinthiens 14, la valeur de la parole apostolique est absolue. Est-ce que vous avez remarqué cela? La prophétie est supérieure aux langues, c'est vrai, elle est intelligible et elle contribue à l'édification, c'est vrai, mais cette supériorité est relative. Elle est relative dans la mesure où elle est subordonnée à la parole apostolique de Paul. Regardez les versets 37 et 38. Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, dit Paul, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré, entre parenthèses, sous-entendu, de Dieu. Mais c'est très intéressant, qu'est-ce que Paul est en train de faire à la fin de ce chapitre? Je pense qu'il est en train de mettre tout le monde d'accord. Il soumet la prophétie, le don de prophétie à Moïse. Il soumet ce don à l'autorité absolue de ce qu'il écrit. Dans le chapitre 14, dans 1 Corinthiens et dans le reste du Nouveau Testament, il soumet la prophétie à l'autorité absolue de ce qu'il écrit et de ce qu'il identifie à un commandement du Seigneur. Autrement dit, ne pas reconnaître ce que Paul dit revient à ne pas reconnaître ce que Dieu dit. L'autorité apostolique de Paul fait de lui, en quelque sorte, l'équivalent des prophètes dans l'Ancien Testament, le dépositaire d'une parole dont Dieu est à l'origine et qui est aujourd'hui consignée pour nous dans la Bible et que nous avons le privilège d'avoir à notre disposition. Une révélation dont les chrétiens de Corinthe ne disposaient pas à l'époque. À l'époque, les chrétiens n'avaient pas beaucoup plus que l'Ancien Testament. La révélation par excellence qui se suffit à elle-même et à la lumière de laquelle toute autre prophétie doit être examinée. Ne cherchez pas 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 21. Paul dit ceci: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, d'accord, mais examinez toutes choses. Et je pense que les prophéties sont inclus là-dedans. Retenez ce qui est bon. Et si la prophétie est soumise à l'autorité de la parole apostolique, à l'époque, au premier siècle, à une époque où le Nouveau Testament n'a pas encore été rédigé et n'est pas encore disponible, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison est-ce le cas aujourd'hui? À une époque où le Nouveau Testament et la Bible nous sont non seulement rédigés, mais disponibles. Je ne suis pas du tout en train de dire, et ça n'engage que moi, que les dons de révélation ont cessé aujourd'hui. Je ne pense pas à ça personnellement, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas la même utilité après la clôture du canon biblique. Et qu'ils sont donc devenus, c'est vrai, peut-être plus rares, en Occident notamment, où la Bible est disponible en langue, dans sa totalité. Vous savez dans combien de langues? Dans plus de 2500 langues aujourd'hui, selon l'association Traduire la Bible, qui est la Wycliffe. Et dans le reste du monde, et en particulier dans les pays où la Bible n'est pas traduite, dans plus de 2000 langues, la Bible n'est pas traduite. Dans ces pays-là, personnellement, je ne vois aucune raison biblique de penser que Dieu ne peut pas encourager son peuple ou même se révéler de manière surnaturelle. Mais encore une fois, ça n'engage que moi et je vous invite sur le canapé après le culte pour en discuter. Et je vous remercie de votre attention et je vous invite à la prière pour terminer. On peut prendre juste quelques secondes pour réfléchir à ce que nous avons entendu de la part d'une parole difficile à comprendre, mais inspirée de Dieu. Aspirer à la prophétie, à l'intelligibilité, parce qu'elle édifie. Aspirer à l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ainsi, la recherche de l'amour est indispensable. La nécessité de l'intelligibilité. Et finalement, l'autorité et la suffisance de la parole apostolique. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta parole qui est une nourriture spirituelle, parfois dure à digérer, mais nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à la méditer et à la mettre en pratique dans le cadre de notre église locale en privilégiant l'intelligibilité pour contribuer à l'édification du plus grand nombre. Et l'ordre, parce que tu es un Dieu d'ordre et que nous voulons refléter le Dieu que tu es, que nous adorons. Aide-nous ainsi, Seigneur, à mettre en pratique ces deux principes, mais aussi à rechercher l'amour, à être intelligible et à nous soumettre à l'autorité de ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.